Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette table ronde sur le sujet de l'hubris et des personnages au-delà des limites, donc qu'ils soient des personnages amenés à être incarnés par des joueurs ou des personnages qui vont affronter ces personnages incarnés. Comme dans tous les médias, le jeu vidéo et le jeu de rôle qui sont présentés ici présentent des personnages comme ça, qu'on surdimensionnés dans un sens ou dans l'autre. Et donc pour en parler aujourd'hui, donc Cindy, Marine et Nicolas qui vont pouvoir se présenter. Et qui vont chacun présenter un aspect et un point de vue sur ce sujet. Donc avec Cindy qui travaille sur l'écriture, Marine qui est plutôt sur la partie art visuel et Nicolas qui vient du jeu de rôle et donc écrit et conçoit des jeux de rôle. Donc je vais vous laisser vous présenter plus en détail votre parcours et votre approche. Je vais peut-être éventuellement dire une première chose sur votre rapport aux personnages dans les jeux. D'une manière ou d'une autre.
Alors bonjour, moi je m'appelle Cindy Asselin de Beauville, donc je suis narrative game designer freelance. Je travaille notamment avec Acte Zero sur plein de jeux différents, que ce soit des jeux indépendants ou des double A. À côté de ça, j'ai travaillé aussi avec Arte, donc je fais de l'écriture, je fais du narrative design et... Et globalement, quel est mon rapport ? Je pense que c'est un peu rentré vif dans le sujet. Je ne sais pas si on laisse d'abord les autres se présenter, parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire dessus.
Ok, ça marche.
Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Marine Mack. Je suis directrice d'une galerie d'art qui s'appelle Pixel Life Stories, qui est dédiée justement à l'art du jeu vidéo, où j'expose des artistes de l'industrie et j'étudie notamment leur processus créatif. À côté de ça, je suis autrice de artbook pour la maison d'édition Pixel Love Third Edition. Et dans les autres casquettes, bah justement, j'étais chroniqueuse pour l'émission Jour de Play sur Arte. Avec Cindy, on a travaillé ensemble. Et également, parce que je fais beaucoup de choses aux alentours du jeu, je suis documentaliste dans un studio de jeux vidéo français qui s'appelle Spiders. Donc en fait, je travaille dans un département artistique de jeux vidéo et mon rôle à moi, c'est justement de trier un petit peu toutes les archives que peuvent laisser derrière eux les créateurs de jeux. Donc ça peut être des concept art, des illustrations, des documents de game design. Moi, mon rôle, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment chacun travaille, avec qui, pourquoi, et de voir plus précisément comment est-ce qu'ils mettent en forme et en image leurs intentions de jeu. Donc c'est pour ça que je travaille notamment sur la question de l'imagerie dans le jeu vidéo. Comment est-ce qu'on conçoit visuellement des personnages, des environnements? Comment est-ce qu'on fait pour traduire des intentions ludiques ou narratives dans un design, tout simplement?
Bonjour, moi c'est Nicolas Ronvel. Je suis auteur et traducteur de jeux de rôle indépendants sous le nom de Gulix. Je travaille principalement sur des jeux de rôle qu'on pourrait qualifier de très narratifs. Qui sont très ouverts au niveau de l'imagination et qui sont un peu moins cadrés par les règles. Voilà.
Très bien. Alors, comme la conférence s'appelle Hubris, on va juste rappeler vite fait, hein, on parle de tout ce qui est orgueil, des mesures appliquées à une personne. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui, quand on a réfléchi à cette thématique, qui nous semblait assez centrale dans toutes les narrations en général, hein, pas que dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle, mais qui, quand une personne doit incarner, donc un joueur ou une joueuse doit incarner les 10 personnages, ça a peut-être encore prend une dimension supplémentaire d'avoir ces personnages que l'on incarne et qui sont démesurés, alors, sous différents aspects. La démesure peut prendre plein de facettes. Peut-être une première question pour Cindy sur la partie écriture. Donc tu parles d'écriture de scénario notamment. Est-ce que l'écriture de scénario de ton côté passe beaucoup par les personnages ou d'abord par une partie plus contextuelle, ou est-ce que ça dépend des projets? Enfin voilà, si tu peux nous parler un peu de l'écriture des personnages, comment ça arrive, à quel moment?
Alors effectivement, tout dépend du projet. Il y a des projets sur lesquels on va commencer directement par les personnages, les construire le plus tôt que possible. Et en fait, une fois que les personnages sont construits, on va décider des péripéties qu'ils ou elles vont vivre. Et ça va créer en fait toute l'histoire. Ou bien totalement à contrario, c'est-à-dire qu'on va créer un univers de zéro. On va essayer de le rendre plausible, intéressant et concret. Et après, une fois qu'on a en fait cet univers dans lequel des personnages peuvent vivre, exister et cohabiter, on va se concentrer sur une partie de cet univers et dire « Ok, bon, bah, à ce moment-là, je veux raconter l'histoire de ce pan de cet univers à travers tel personnage. » Du coup, bah, la création, ça passe par énormément d'étapes, donc c'est vraiment très large comme question. Ça se fait notamment dans le jeu vidéo à plusieurs. On va beaucoup réfléchir en fait déjà au type de jeu qu'on est en train de réaliser. Le personnage sera jamais le même si on travaille par exemple sur un RPG ou si on travaille sur, je sais pas, un dating sim. On n'aura vraiment pas du tout la même conception des personnages. Et aussi de ce qui va venir après. C'est-à-dire qu'on considère déjà très tôt dans la production la façon dont les personnages en fait, vont évoluer dans le jeu. Est-ce que ce sont des personnages qui vont parler ? Est-ce que ce sont des humains ? Qu'est-ce qu'ils sont, quoi ? Et aussi l'univers dans lequel, bien sûr, ils vont évoluer. Donc, on a un peu cette espèce d'effet de ping-pong aussi avec les départements art. Qui eux ont aussi envie de faire certaines choses qui ne vont pas forcément aller dans le même sens que nous. Donc oui, c'est très large, ça dépend.
Et du coup, Marine, peut-être sur la partie justement plus visuelle, ce que tu peux voir et ce dont tu es témoin à travers la galerie, les artbooks et le travail avec Spiders sur la création des personnages.
En fait, c'est assez complexe. Ça dépend beaucoup justement des studios dans lesquels on est. Forcément, un jeu AAA qui a énormément de budget ne va pas travailler de la même manière qu'un jeu indépendant où on a trois personnes qui doivent concevoir des personnages. On a des jeux qui vont accorder les deux jours à un artiste pour créer le visage de la licence. À l'inverse, on a des studios, on va leur donner 6 mois, 8 mois. Donc forcément, déjà pour les artistes en eux-mêmes, l'attachement n'est pas le même. Généralement, nous, on est un peu le pendant, justement, avec le département narratif. C'est-à-dire que les artistes qui travaillent dans un studio, parfois, vont avoir un certain nombre de documents sous la main. Donc, ça peut être ce qu'on appelle des bibles narratives qui vont documenter vraiment l'ensemble d'un univers de jeu, que ce soit des personnages, des artefacts, des environnements. Ça va leur permettre de vraiment comprendre l'histoire dans laquelle ils vont s'investir. Ils peuvent avoir des documents, ce qu'on appelle les briefs. Les briefs, c'est des petits encarts en fait, textuels qui vont donner un certain nombre d'éléments sur le personnage à concevoir. Donc ça prend un peu la forme de petites fiches d'identité. En fait. Par exemple, voilà, sur le nom, la personnalité, l'âge du personnage à créer. Parfois, on va associer à ces textes-là des petites références visuelles en disant bah, « voilà, Le jeu sur lequel on va travailler, il va y avoir des acteurs qui vont prêter leur visage à l'un ou l'autre des personnages. Donc dans ces cas-là, on met des références des acteurs pour que justement les artistes puissent concevoir à partir de ça. Donc en fait, on a un certain nombre de documents effectivement narratifs qui vont être donnés aux artistes. Et ensuite, c'est aux artistes de trouver, on va dire, la bonne représentation visuelle qui va être la plus crédible au sens de vraiment porter finalement l'histoire du personnage au travers de la physionomie, au travers du style vestimentaire. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'artiste qui conçoit les personnages, qu'on appelle le character designer, va pouvoir travailler à la fois sur un physique, sur un style vestimentaire, donc il a presque le travail de costumier aussi. C'est marrant, quand on regarde les planches des artistes, on a l'impression de voir des planches comme on peut en voir dans la mode haute couture, en fait, hein, avec des détails de coupe, etc. Enfin, voilà, c'est assez similaire. Donc en fait, il y a une étape par laquelle passent tous les character designers, ce qu'on pourrait appeler une étape de profilage, c'est-à-dire que l'artiste va vraiment prendre le temps de faire la rencontre avec le personnage, de comprendre qui il est, son histoire, son passé, parce qu'un personnage dans un jeu vidéo n'est jamais déconnecté de l'univers dans lequel il est, c'est toujours le produit d'un environnement. Donc il faut d'abord comprendre ce qui est donné à voir et à raconter avant de pouvoir ensuite donner une matérialité finalement au personnage. Donc tout s'emboîte. Mais à l'inverse, on a aussi des studios dans lesquels il n'y a absolument rien qui est fait en intro, c'est-à-dire que bah voilà, on veut faire, je sais pas, un action RPG, on voudrait une dizaine de personnages dans ce jeu. Voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va raconter, on ne sait pas, faites-nous des propositions. Et dans ces cas-là, les artistes vont un peu explorer qu'est-ce qui pourrait être fait. C'est par exemple le cas d'un jeu qui s'appelle Horizon Zero Dawn. Pour ce jeu, tout le monde qui acquiesce, oui, on connaît. Effectivement, ça c'est par exemple un projet qui est super intéressant parce que quand les artistes ont commencé à travailler dessus, il n'y avait absolument rien, pas une ligne de scénario. On ne savait rien, hormis le fait qu'il allait y avoir beaucoup de personnages à créer. Donc ce qu'ils ont fait, plutôt que de partir directement dans une phase de conception visuelle, c'est vraiment une activité de world building. Ils ont travaillé justement avec les narrative designers en disant, voilà, dans ce jeu, on va avoir différentes tribus qui vont être représentées. Donc plutôt que de réfléchir en termes de personnages, d'entités individuelles, on va réfléchir en termes de groupes. Donc on se dit, par exemple, il va y avoir une culture qui va vivre dans les montagnes du Colorado. Ok, très bien. Quelle température il fait dans le Colorado? Pas très chaud. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Quel type de faune, de flore on peut trouver? Et en fait, ils partent justement de l'univers pour progressivement avoir un certain nombre d'informations et ensuite travailler le design à partir de ça. Donc c'est presque une approche anthropologique, on va dire, du chara-design. Donc, vraiment en fonction des studios et du budget et du temps qui est accordé à la création, les process sont vraiment très diversifiés. Et j'ai tendance à dire justement que chaque studio de jeu est un petit écosystème créatif à part entière et il faut s'immerger dedans pour pouvoir comprendre les manières de faire.
Merci beaucoup. Et donc Nicolas, sur la partie donc écriture mais aussi traduction, peut-être dans ce que tu vois dans les jeux de rôle qui sont il y a beaucoup de proximité avec certains jeux vidéo, mais la proximité principale donc c'est faire incarner aux joueurs. Est-ce que l'écriture chez toi c'est plutôt effectivement des personnages ou est-ce que c'est des univers, c'est des règles aussi peut-être, des systèmes?
Dans le jeu de rôle, la grosse différence avec le jeu vidéo pour pratiquer les deux, c'est que le jeu de rôle va être beaucoup plus ouvert puisqu'on n'est pas cadré par les règles de l'univers, les règles de conception du jeu qu'on a dans un jeu vidéo et le fait qu'il n'y a pas forcément d'avatar prédéfini. Alors dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des possibilités de créer son propre avatar, mais dans le jeu de rôle, en fait, c'est ce qu'on appelle le théâtre de l'imaginaire. On va créer son personnage dans notre tête et il va être même différent. On va jouer à 4 autour d'une table, à 5, et chacun aura une image différente du personnage qu'on est en train de raconter. Pour ça, quand on crée un jeu de rôle, en fait, on va réfléchir à des mécaniques. Comment on propose aux joueurs, qu'est-ce qu'on va donner comme outil aux joueurs pour créer ce personnage? Et là, clairement, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire jouer. On peut vouloir faire jouer des aventuriers qui vont s'aventurer dans des donjons pour tuer des dragons et obtenir des trésors. Et dans ces cas-là, on va proposer des outils pour leur donner, en effet, de quoi combattre, de quoi faire de la magie, de quoi se soigner. Maintenant, on peut proposer d'autres jeux. Dans le jeu indépendant, il y a des propositions complètement autres. On a des jeux dans lesquels on va jouer les propriétaires d'un café qui voient arriver des gens différents tous les jours. Et en fait, on joue des interactions sociales. Et donc là, on ne va pas proposer des caractéristiques chiffrées, forcément. On va plutôt proposer des émotions, on va proposer des pistes sur ce que les personnes aiment, sur ce qu'elles n'aiment pas. Et tout ça, c'est par rapport à l'ambition, qu'est-ce qu'on veut faire jouer. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il faut penser, qu'est-ce qu'on veut faire jouer. Si je veux faire un jeu d'action, si je veux faire un jeu qui est plutôt sur une ambiance, est-ce que je veux faire un jeu au jeu de rôle? On connaît beaucoup le jeu de rôle de campagne, typiquement Donjons & Dragons, où on va monter du niveau 1 au niveau 20. Il y a de plus en plus de jeux de rôle qui sont des jeux de rôle one shot. On se pose, on joue 1 heure, 2 heures, 3 heures, la partie elle est terminée, l'histoire est terminée, les personnages on les remballe. Ben, on va pas penser du tout de la même façon de créer un personnage qui ne va pas avoir une évolution sur plusieurs parties, sur plusieurs mois, à un personnage qu'on va jouer sur une session très courte d'une heure ou deux.
Ok, merci. Et donc, peut-être pour aller au-delà pour ratisser plus large encore que les personnages forcément incarnés par les joueurs, mais tous les personnages d'un univers, donc y compris notamment les antagonistes, sont souvent très importants parce qu'ils viennent cristalliser souvent le scénario ou en tout cas les motivations ou des personnages ou des joueurs et des joueuses. Est-ce que vous avez dans vos expériences des exemples, alors pas forcément dans ce sur quoi vous avez travaillé, mais peut-être, de personnages antagonistes ou incarnés qui soient justement qui vous semblent trop aller trop loin dans l'excès de parce qu'ils portent des clichés ou des exagérations un peu classiques, des stéréotypes trop marqués ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent de personnages qui seraient vraiment beaucoup trop poussés dans une direction ou dans une autre? Tu veux commencer, Cindy?
Ouais. Alors, c'est pas un antagoniste, mais moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Bayonetta.
Voilà, on n'a pas du tout parlé en ce moment.
Voilà, qui est à la fois aimé et détesté des féministes pour des raisons assez évidentes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'étendre sur le sujet. Je pense qu'on sait pourquoi. Voilà, ça crée de... du conflit, mais plus généralement, moi, ça me fait penser en fait à tout cette espèce d'amour pour le démesuré de la part des Japonais, et notamment de tout ce qui touche à la création japonaise. Mais après, bon, moi, je pense que c'est particulièrement lié en fait à leur histoire et au fait que il y a un tabou dans les relations qui rend en fait le jeu vidéo et tout ce qui est art un moyen vraiment d'expression exceptionnel pour eux. Et en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ça arrive en fait en Europe et aux États-Unis et dans tous ces endroits, et qu'en fait, on confronte notre façon de penser et de voir le futur avec ces visions qui peuvent à la fois plaire ou totalement déplaire, comme Bayonetta, pour le coup. C'est ce qui me vient à l'esprit en premier.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi que la réception du public face aux des personnages passe aussi par le prisme culturel, et en fonction de qui crée les personnages, la lecture en sera finalement différente quand c'est la même culture ou quand c'est exporté, effectivement. Marie,
Honnêtement, c'est difficile d'en citer un comme ça parce qu'il y a tellement de jeux en fait dans lesquels on se dit bon. En fait, moi, c'est ce que j'aime dans ce que j'étudie, c'est de voir comment les artistes vont essayer de contrer un petit peu ces stéréotypes de genre ou autres. Il y a toujours un studio que j'aime beaucoup citer parce que je trouve qu'ils ont su, prendre les choses à l'envers. Pour justement ne pas faire des personnages qui ressemblent toujours au même type de personnages qu'on a l'habitude de voir. C'est un studio comme That Game Company, je ne sais pas si vous connaissez, un jeu comme Journey par exemple, vous voyez, où on a ce petit personnage, cette espèce de triangle rouge qui se balade dans un désert minimaliste. Ben ça, pour le coup, c'est très clairement un exemple de choses qu'on aime voir et qu'on aimerait voir plus souvent. Parce que quand ils ont commencé justement à concevoir le jeu, l'idée pour eux, c'était de prendre à revers tout ce qu'on ne veut plus voir, c'est-à-dire des jeux qui sont beaucoup dans la compétitivité, dans le stéréotype de genre, où il faut toujours se mettre sur la gueule, quoi. On a beaucoup de jeux qui proposent ce genre de choses. Et eux voulaient produire une expérience qui soit beaucoup plus, on va dire, fraternelle. Quelque chose qui favoriserait la bonté, l'entraide entre les joueurs, quelque chose qui serait à caractère universel. Donc forcément, c'est déjà assez ambitieux de vouloir faire ce genre d'expérience. Et donc forcément, la difficulté, c'était de créer un personnage qui allait pouvoir représenter ça. Donc eux, pour justement créer un personnage qui soit, en lequel chacun pourrait s'identifier, on s'est dit, OK, pour le design graphique du personnage, comment est-ce qu'on fait pour abolir les barrières culturelles ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait, finalement, pour créer un personnage dans lequel on va pouvoir s'identifier, quelle que soit l'histoire de la personne, son genre, son background ? Il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui fasse consensus. Donc, au début, quand on regarde un petit peu ce qu'on appelle les premiers concept art, donc c'est des images conceptuelles, c'est-à-dire des images dans lesquelles on essaye de donner forme à des intentions de jeu. On voit les premières concept art du personnage, c'est assez rigolo. C'est plutôt un personnage féminin avec de grands yeux, qui est assez typé. Finalement, on arrive presque à identifier déjà l'origine de la personne. Et ça, ils se sont dit, non, là pour le coup, on peut trop identifier la culture du personnage, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Et quand on regarde tous les concepts qui ont été produits, on se rend compte que plus on avance dans le processus de création, et plus en fait les formes sont devenues synthétiques. D'un personnage humanoïde, on est passé à un personnage qui n'avait plus de jambes, puis après plus de bras. Pourquoi plus de bras? Justement parce que les joueurs qui ont testé le jeu avaient tendance à se frapper assez spontanément. Ils se sont dit, OK, dans ces cas-là, on va retirer les bras du personnage, comme ça, ils ne pourront plus le faire. C'est réglé. Et en fait, petit à petit, plus on avançait dans la production et plus on retirait de choses. Et c'est ce qui a amené justement à ce personnage très minimaliste où on ne voit pas le visage qui est masqué. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on ne peut pas plaquer un genre ou une identité. Pas de bras. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que, ne serait-ce que, par exemple, au tout début, ils ne voulaient pas que le personnage puisse parler. Ils voulaient que le personnage ne puisse communiquer qu'avec les yeux. Donc c'est pour ça que la bouche était masquée au départ. Et voilà, petit à petit, c'est des petites notes d'intention comme ça. Il fallait aller étudier finalement les mécaniques de jeu qui étaient proposées et le message qu'on souhaitait faire passer. Et c'est ce qui a beaucoup infusé, ce qui a amené au design à la fin.
Moi, il y a un personnage un peu un antagoniste que j'ai un peu de mal avec maintenant, c'est Cthulhu. qui est bien connu, qui est un peu un épouvantail dans le jeu de rôle. Et je trouve que là où j'ai du mal, où j'ai fait un peu une overdose, c'est que je le trouve pas bien utilisé parce que justement, il est tellement over the top qu'en fait, on devrait même pas avoir à le rencontrer, à l'affronter. Alors que beaucoup de jeux, justement, proposent des affrontements. Alors, quand je parle de Cthulhu, je parle de grosses créatures comme ça, mais ça manque un petit peu, justement, de réflexion sur qu'est-ce qu'il représente vraiment et qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire avec. Certains jeux essayent de changer un peu cette donne, mais typiquement, sur ce genre de créatures, pourquoi lui remettre des caractéristiques? Pourquoi en leur mettant des caractéristiques, des points de vie ou ce genre de choses, on autorise un peu le combat, comme là tu disais, avec pourquoi mettre des bras si on veut pas qu'il y ait de combat? Ben voilà, il y a des choses comme ça, des affrontements, des personnages. Pourquoi est-ce qu'on leur donnerait des caractéristiques qui font qu'on peut les vaincre? Pourquoi est-ce qu'on se limiterait pas à juste dire ils existent, ils ont telle importance dans l'univers et au final ils sont là, mais ils sont pas là pour être affrontés. Voilà.
C'est vrai que ça me fait penser dans les vieux jeux de rôle, au Seigneur des Anneaux, où justement il y avait des caractéristiques pour les personnages iconiques des romans. Et c'était effectivement tenter les joueurs de vouloir les incarner ou les affronter, ou en tout cas voilà, faire des choses.
Je voulais rajouter que en fait, le problème des antagonistes totalement over the top, c'est qu'ils ne correspondent qu'à des clichés. C'est le grand méchant mégalomane qui veut détruire l'univers parce que, pour une raison, on s'en fiche en fait de la raison, c'est pas très important. C'est la petite fille, gna gna gna, je suis trop une petite fille, regardez, je suis trop machin, totalement typée japonaise. C'est la meuf très bonne, trop méchante qui va écraser tout le monde. C'est vraiment que les clichés sur lesquels on peut coller vraiment quasiment n'importe quel gros vilain qu'on considère comme excessif. Et c'est aussi ce qui rend les personnages over the top complexes, vachement intéressants et vachement attachants, parce qu'ils sont plus qu'une personnalité poussée à l'extrême, ils sont plus qu'un cliché qu'on a vu et revu des dizaines de fois, que ce soit Cthulhu ou encore... pas Bayonetta parce que c'est pas un méchant, mais vous allez me dire, elle déteste Bayonetta, pas du tout. Il faut que en fait, ça dépasse le cliché. Et pour dépasser le cliché, il faut que les personnes en fait, qui créent les personnages soient capables d'avoir de la curiosité, d'aller chercher dans l'histoire, d'aller chercher de nouvelles représentations, d'être capables de, pas simplement innover, en fait, c'est juste prendre conscience de ce qui a déjà été fait et de la demande en fait, des nouvelles générations, de voir l'évolution du monde et de se dire, OK, en fait, aujourd'hui, je dois avancer avec le temps et ça, c'est devenu trop cliché. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour le remettre au goût du jour? Comment je peux faire pour innover, quoi?
Mais au-delà des clichés, justement, qui effectivement qu'on peut avoir envie de dépasser au fur et à mesure que le temps avance, et heureusement, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre justement l'attente des publics sur ce que doivent être les personnages? Quelque part, il y a une attente de ce que qu'un personnage soit grandiose ou soit extrême par certains aspects, et l'envie d'en faire quelque chose de plus complexe, parce que est-ce que les extrêmes dans lesquels on les dépeint, ces personnages, ne vont pas cacher ou entraver la capacité d'écrire ou de raconter une complexité et plus de subtilité? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on navigue cette frontière entre il faut faire des personnages qui soient over the top et en même temps écrire des personnages qui soient peut-être intéressants ou plus subtils ou moins clichés?
Bon, moi, je pense qu'il faut, quand on écrit en tout cas un personnage, lui trouver un propos en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut intégrer ce personnage dans notre histoire? On peut mettre un personnage over the top, on peut décider de jouer avec les clichés. Maintenant, faut pas juste se dire on va mettre un personnage over the top, on va mettre les potards à fond et on va voir ce qui se passe. C'est pourquoi est-ce qu'on veut mettre les potards à fond? Est-ce qu'on veut partir par exemple d'en raconter une histoire où en effet on va montrer que la démesure, la folie va amener ce personnage à agir n'importe comment et à l'amener en tant que grand antagoniste, mais peut-être avec justement une histoire derrière. Si on décide juste je mets les potards à fond parce que c'est rigolo puis on va voir ce qui se passe, on perd peut-être un peu cet intérêt et justement l'idée de pouvoir utiliser maintenant, avec toute la culture populaire qu'on a, ces figures antagonistes, voilà, c'est cliché, tu as présenté tout à l'heure des grandes figures qu'on a dans la culture populaire. Ben, on peut les utiliser, ils ne sont pas bannis non plus de la culture populaire, mais il faut savoir d'où elles viennent et qu'est-ce qu'on peut faire avec et pourquoi est-ce qu'on veut les utiliser dans le projet qu'on est en train de mener.
Moi, j'ai oublié la deuxième partie de la question, donc ça commence bien.
C'était sur la tension justement entre réussir à utiliser ou à avoir des personnages surdimensionnés, mais en même temps réussir à les rendre intéressants.
Oui, alors pour moi j'ai une take un peu spéciale, c'est que les personnages over the top, ils ne fonctionneraient pas s'ils étaient tout seuls en fait. Parce que pour avoir un contraste, il faut des personnages qui soient considérés comme normaux, voire plus simples. Et si on arrive à caractériser un personnage comme étant excessif, c'est parce que il contraste en fait. C'est vraiment ça, il contraste avec les autres. Et du coup, effectivement, il y a des attentes du côté des joueurs et des joueuses, mais les attentes en fait, elles évoluent aussi avec le temps. Et en fait, il faut aussi répondre à ces attentes. Il y a des attentes du type. Maintenant, les clichés, les personnages trop clichés, un peu simples, on n'en veut plus trop. Et tant mieux, parce que du coup, ça permet en fait, d'aller dans cette niche-là et de la développer. Maintenant, si on a envie de complètement correspondre aux attentes et de développer ce qui va faire un produit, ok, on fait un produit. Mais si on veut faire un jeu qui balance un message, faut choisir en fait, son combat, quoi.
Globalement, les gens qui veulent qu'on reste dans la même dynamique que les jeux d'avant, c'est ceux qui disent « Oh, mais je ne peux pas m'identifier à une femme, je suis un homme, vous comprenez ?» Bon, en réalité, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent que le jeu vidéo évolue, que le jeu se renouvelle. Enfin, je pense que c'est une opinion qui est dominante, mais on ne voit que la minorité, parce que c'est celle qui fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux. Pour donner un exemple, j'ai travaillé pendant près d'un an dans un studio donc, qui s'appelle Spiders, j'en parlais tout à l'heure, et je trouvais que c'était assez intéressant. Ils ont travaillé sur un jeu, alors, je ne sais pas si vous connaissez de nom, ça s'appelle Steel Rising, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Un jeu d'inspiration historique, un action RPG, dans lequel Louis XVI, donc, figure historique emblématique, a complètement pété un câble en apparence. C'est quelqu'un qui... d'après les livres d'histoire, était passionné d'horlogerie et on a décidé de créer un personnage qui allait pousser ce côté-là. Donc on part dans le fanatisme scientifique en disant « Ok, Louis XVI était à ce point passionné d'horlogerie, et bien qu'on va en faire un tyran finalement qui conçoit une armée d'automates mécaniques et qui va venir affronter les révolutionnaires pour tuer la révolution dans l'œuf. » Alors, quand on dit le truc comme ça, on se dit « Ok ». Très très cliché, le tyran devenu fou, enfin t'as tous les clichés de la caricature, de ce qu'on a l'habitude de voir, alors qu'en réalité pas du tout, quand on s'attache un peu à voir ce qui a été fait en termes de game design et en termes de narration, c'est beaucoup plus riche que ça. Alors déjà, quand ils ont créé donc, l'héroïne du jeu, qui s'appelle Aegis, ils ont dit dès le départ, dans la plupart des action RPG, on a des hommes qui sont taillés à la hache, hein, les épaules massives, etc. Nous, on veut tout l'inverse. Donc, on va développer un personnage féminin, mais féminin en apparence, puisqu'en réalité, c'est un automate. Donc, un automate qui a certes des formes féminines, mais qui n'est pas vraiment une femme. Donc, tous ceux qui disent, non, mais je ne peux pas m'identifier à elle, c'est une femme. Désolée, mais déjà, l'argument ne vaut pas. On a justement tissé autour de ce personnage l'histoire d'une danseuse, à la base, qui était là pour divertir le roi à la cour de Versailles. Donc un personnage très gracile, très, très fin, qui avait que des mouvements très chorégraphiques, hein, comme vous savez, les petites figurines de ballerines dans les boîtes à musique, quoi. C'était vraiment ça, en fait, qu'on voulait créer. Et donc, tu parlais de contraste, et bien justement, l'armée mécanique qui est conçue, c'est une armée d'automates, mais il y a énormément de recherches documentaires en fait, qui ont été faites sur les personnages historiques qui ont servi de modèle en fait, à ces automates, c'est-à-dire qu'on va chercher des personnalités historiques qui ont été actifs pendant la Révolution française, et on va essayer justement de conserver des éléments symboliques comme le métier qu'il pouvait faire à l'époque, comment est-ce qu'il s'exprimait dans les textes de l'époque pour essayer de retrouver une personnalité. Et on va aller chercher tout ça pour concevoir des personnages alors qui de premier abord, on se dit ok, c'est des boss dans l'arène, ils sont très clichés, mais en réalité, on a essayé à chaque fois de désamorcer les caricatures en apportant de la subtilité, en fait, que ce soit au travers des mécaniques ou au travers du design graphique, et je trouve que ce jeu est très intéressant pour ça. Voilà, on a plus ce côté action RPG avec ce gros badass qui va arriver avec ses gros flingues. Alors, il y a des flingues dans le jeu, mais je trouve qu'il y a quand même une plus forte subtilité, et d'ailleurs c'est un studio qui est piloté par une femme qui est absolument incroyable, qui s'appelle Jeanne Rousseau, qui est très talentueuse, qui est très au clair justement de tous ces stéréotypes et tous ces problèmes qui gangrènent l'industrie du jeu vidéo, pour en avoir été elle-même, je pense, victime entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui a à cœur justement de lutter contre les stéréotypes de genre, etc., et qui briefe dès le départ ses équipes en disant: moi je veux pas du cliché, si on entre dans une forme de stéréotype, il faut que ce soit justifié. Si ça ne l'est pas, ça dégage. Voilà. Et c'est vrai que si on procédait de cette manière-là pour plus de jeux, ça serait pas mal. Je pense que c'est même pas une question de... Est-ce que les créateurs veulent ou ne veulent pas dépasser les stéréotypes ? Il y a ce que les artistes veulent, et puis il y a ce que parfois les décisionnaires demandent, et parfois ça peut entrer en conflit, et c'est très, très souvent le cas d'ailleurs.
C'est intéressant ce que tu dis là sur la partie brief justement et cadre. Ça, c'était la question que je voulais poser ensuite. C'était: est-ce que dans vos pratiques, vous avez pu voir ou mettre en pratique justement mettre en place des garde-fous et être obligé de revenir en arrière? Alors dans le cadre du jeu de rôle, peut-être que ce soit pour les joueurs, c'est-à-dire leur dire non, là ton personnage il part vraiment trop dans le délire, ou dans les personnages écrits pour un scénario, et puis la même chose dans l'écriture de scénario pour Cindy, ou dans les arts visuels, où je sais que notamment sur la partie graphique il y a aussi une culture, c'est-à-dire que les gens qui font des études d'art appliqué ou de design, etc., vont avoir souvent être très emprunts d'une culture des clichés, notamment au niveau de la physionomie des personnages, etc. Je l'ai vu souvent, même des gens qui sont pas forcément qui sont très conscientisés, par exemple sur les stéréotypes de genre, vont quand même à travers leur travail, malgré eux quelque part, les reproduire. Donc, est-ce que vous avez des exemples de garde-fous, de stratégies ou de façons d'aborder les choses pour limiter justement les excès qui seraient délétères à l'histoire ou à la narration ou au contexte?
Alors, dans le jeu de rôle, il y a des outils qui se développent de plus en plus, qui sont ce qu'on appelle les outils de sécurité émotionnelle, qui permettent en fait de cadrer une table. Après, si une table, l'ensemble de la table, voilà, quand on fait un jeu de rôle, quand on joue à un jeu de rôle, l'histoire elle va rester sur les participants autour de la table. C'est pas quelque chose qu'on va diffuser, sauf si on fait des actual play ou ce genre de choses, mais typiquement on va rester autour d'une table. L'idée c'est d'avoir une sorte de contrat autour de la table pour se dire jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on accepte, de disposer des outils comme la carte X par exemple, qui dit non, là on va un peu trop loin, j'ai pas forcément envie d'aborder ce genre de sujet, là ton personnage il est peut-être un peu trop, on va essayer de se cadrer. C'est des choses qu'il faut discuter autour de la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un meneur tout puissant qui va décider de tout, les joueurs qui font chacun ce qu'ils veulent dans leur coin au détriment peut-être d'un autre joueur. L'idée c'est de travailler collectivement. Le jeu de rôle, c'est un jeu collectif, c'est un jeu coopératif. Moi, les jeux que j'écris, le meneur de jeu n'a même pas ce titre de meneur de jeu quand il y en a un, parce que j'écris des jeux où il n'y a pas du tout de meneur de jeu, et on est tous au même niveau, c'est-à-dire qu'on est tous des joueurs, et l'objectif, c'est de tous passer un bon moment, et donc dans ces cas-là, de se définir des règles entre nous pour passer ce bon moment. Maintenant, en tant qu'auteur, on a aussi des choses à faire au niveau du game design, c'est-à-dire que les outils qu'on va proposer pour créer un personnage, par exemple, c'est nous, en tant qu'auteur, qui les définissons. Donc c'est à nous aussi de se dire, est-ce que je ne donne pas trop pour que ça aille dans le n'importe quoi ? Est-ce que je veux respecter certaines choses dans le personnage ? Là, j'ai un jeu que j'ai traduit il y a un an, qui s'appelle Brindlewood Bay, où on va jouer un groupe de vieilles dames enquêtrices qui vivent à Brindlewood Bay, c'est une petite ville dans le Massachusetts. C'est typiquement inspiré d'arabesque. On pourrait dire que on va se moquer de ces vieilles dames, on va faire n'importe quoi avec, mais le game design fait que c'est pas vraiment possible. Si on veut vraiment profiter du jeu, on a des mécaniques qui vont faire qu'on va devoir raconter leurs existences, on va devoir raconter leur vie de famille, on va devoir raconter comment elles s'organisent entre elles, qu'est-ce qu'elles partagent comme moment intime entre elles. Qu'est-ce que c'est que d'être justement une dame âgée qui est veuve, puisque la proposition du jeu c'est que toutes ces femmes sont veuves, on ne peut jouer que des femmes dans le jeu. et toute cette mécanique de jeu que l'auteur a mis en place autour de tous les bonus qu'on peut avoir. En fait, c'est ça, c'est que quelqu'un qui décide de se moquer complètement de ses vieilles dames et de jouer n'importe comment avec cette vieille dame, en fait, il va être pénalisé par le jeu parce que le jeu va lui dire non, il faut aussi que tu la respectes. C'est-à-dire que oui, on peut faire, il y a de la comédie, c'est arabesque, c'est Golden Girls, il y a de la comédie derrière, mais il y a un côté aussi, on s'intéresse à leur vie et en fait, on va respecter ces personnes, on va respecter ces personnages. Et si tu veux pouvoir bénéficier à fond du jeu des bonus qu'il peut te permettre d'avoir, bien, il faut que tu les respectes et que tu vives ces tranches de vie de manière respectueuse.
Juste pour préciser, je ne sais pas si tout le monde connaît la carte X, donc c'est une carte dont les joueuses disposent, qui peuvent à tout moment mettre sur la table pour dire stop, sans pour autant donner d'explication sur la raison pour laquelle ils veulent ne pas aller plus loin.
C'est ça, c'est juste un mécanisme de... ça marche très bien en convention, puisqu'on ne connaît pas forcément les joueurs qu'on a en face de nous, même quand on joue avec des amis, on ne connaît pas forcément. Il peut y avoir un événement récent qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'aborder tel ou tel sujet, qui est plus ou moins grave, après c'est à chacun... de voir, mais c'est une sorte de petite soupape de sécurité qui coûte pas grand chose à mettre en place. Un post-it, on trace un X dessus et puis voilà.
Marine, Cindy, là sur les garde-fous. Et...
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi ça me fait penser au fait que l'écriture en fait dans le jeu vidéo c'est une œuvre collective plus que personnelle, donc il est évident qu'il faut absolument mettre des limites, que ça soit dans le fait de simplement cadrer l'écriture pour qu'on ne parte pas dans tous les sens, que dans le respect en fait, des autres personnes qui écrivent avec nous. Et aussi d'un point de vue totalement humain, moi et du coup mes collègues, on essaye en fait, de se limiter à l'écriture de ce qu'on peut faire. Je m'explique. Si demain on me demande d'écrire, par exemple, pour un jeu qui va parler de la culture vietnamienne, dans les années 1950, je pense que je ne me sentirais pas capable de le faire, et je pense qu'il y a surtout des auteurs ou des autrices qui sont concernés en fait par le sujet et qui seront beaucoup plus à même que moi de le faire. Et donc dans cette idée de respect et de limite, je préfère en fait laisser la plume en fait aux personnes concernées, aux minorités concernées. Maintenant, imaginons, ce n'est pas du tout possible, je suis déjà sur une production, il y a eu un turnover à 360, ils ont fait « ok, on va écrire sur ça », il y a toute une démarche à faire de se renseigner, d'être entouré des personnes qui sont concernées, etc. Parce qu'il faut s'imposer des limites dans l'écriture. Qu'est-ce qu'on doit s'imposer comme limite ? Pour moi, c'est tout ce qui va être de l'appropriation culturelle, tout ça, pour moi, ça, c'est les limites qu'il faut s'imposer. Maintenant, au niveau des personnages, comment on jauge qu'un personnage va trop loin, comment on fait en sorte de s'assurer que c'est OK, qu'on peut mettre un personnage comme ça en fait, dans une histoire. Moi, mon guess, c'est que ça va dépendre en fait, du contexte et du type de jeu aussi sur lequel on travaille. Et par contexte, j'entends, si on écrit un personnage, c'est le personnage le plus horrible du monde, il fait, je sais pas, il tue des bébés chatons et tout le monde le déteste, voilà. Et qu'on dit dans l'histoire, c'est un héros, c'est trop bien ce qu'il fait, c'est ouf, ça va pas du tout. Maintenant, si ce personnage tue des bébés chatons et que il se fait démolir par l'histoire, que tout le monde lui tombe dessus et qu'au final il apprend, il évolue, il grandit, il dit putain c'était horrible, j'étais trop une mauvaise personne. Là je caricature, mais qu'à la fin il se dit ah finalement les chatons c'est trop bien. Pour moi ça devient ok, c'est-à-dire que tout va dépendre du message en fait qu'on veut faire passer avec le personnage et du contexte dans lequel ce personnage va évoluer. Donc c'est plutôt comme ça que je juge les limites, parce que c'est vachement compliqué en fait d'avoir un œil critique sur son propre travail, et même dans ces cas-là, si on n'y arrive pas, ce que je conseille c'est toujours de se faire relire par d'autres personnes qui sont soit concernées, soit c'est le métier, ça existe, des sensitivity readers. Donc voilà.
En fait, il y a toujours une ligne entre guillemets qui se tisse de choses à ne pas dépasser. Et dans le métier, je trouve que les artistes emploient souvent le terme de crédibilité. C'est-à-dire que voilà, tu vas en tant qu'artiste devoir effectivement formaliser au travers d'images des intentions de jeu, un message. Tu vas devoir t'imprégner de l'histoire d'un personnage, de ses valeurs pour pouvoir les restituer à l'écran. je pense qu'il faut aussi pouvoir s'approprier ou en tout cas comprendre la philosophie créative d'un studio, parce que chaque studio va peut-être approcher différemment un sujet ou va avoir à cœur pour une certaine raison, parce que ça s'inscrit dans son ADN. Il faut pouvoir avoir tout ça en tête. Et la ligne de la crédibilité, c'est ça pour moi qui fait le garde-fou, c'est-à-dire que quand tu crées, quand tu mets en image une intention, tu sais tout de suite, entre guillemets, si ça va coller ou pas, en fait. Si tu es dans un jeu qui parle, par exemple, je ne sais pas, du deuil, c'est des sujets qui sont assez sensibles, bon, bah, la manière dont tu vas représenter effectivement un personnage peut toucher d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a une forme de justesse. On cherche la justesse émotionnelle, narrative, au travers du design. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un garde-fou. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent aussi, en tout cas, c'est ce qu'on attend aussi d'un bon character designer. C'est ce qui ressente les choses, qui puisse traduire la forme de la chose de la bonne manière. Après, évidemment, en interne, en tout cas pour les départements artistique, un artiste, on lui dit pas, bon, ok, allez, vas-y, crée un personnage, commence comme ça. Il va y avoir un certain nombre de réunions où on va le briefer sur l'histoire de l'univers, du personnage. On va lui expliquer vraiment les choses et ça va être à l'artiste justement de prendre en note tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il n'y a pas que l'histoire ou la narration qui entre en jeu, il y a aussi beaucoup le game design. Quand on crée un personnage de jeu vidéo, parfois il y a des mécaniques qui sont inscrites dans un jeu qui font que le design va pouvoir évoluer au fil du temps. Si on prend un jeu vidéo comme Gris, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, du studio Nomada, un studio espagnol, où en fait, je parlais du deuil tout à l'heure, voilà, c'est une jeune femme qui... Alors, je ne veux pas spoiler, mais bon... Non, je ne vais pas spoiler, mais voilà. Bon, une jeune femme qui traverse une étape difficile de sa vie. Et en fait, on se rend compte que les mécaniques évoluent, c'est-à-dire que plus on avance dans les niveaux et plus le personnage va gagner en capacité d'action. Et en fait, pour traduire justement cette nouveauté dans les possibilités d'action, le personnage va changer de design. C'est-à-dire que vous allez avoir des chapitres où le personnage va être de forme circulaire, d'autres de forme triangulaire, etc. etc. Ils se sont d'ailleurs inspirés de la théorie des formes et des couleurs de l'artiste peintre Kandinsky pour pouvoir théoriser justement le design du personnage. Et voilà, on se rend compte que parfois, il y a des sujets qui sont tellement difficiles en fait, à exprimer que parfois, peut-être synthétiser des émotions au travers de formes ou de couleurs, ça marche aussi très bien. Donc en fait, voilà, il y a plein d'approches différentes et la ligne, elle se... Je pense que les artistes savent très bien de quel côté de la ligne ils se placent quand ils créent.
Très bien, merci. Vu l'heure, je pense qu'on va passer à voir s'il y a des questions dans le public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public déjà ? Oui, il y a au moins quelques questions dans le public. Donc, on va commencer à les adresser.
On pourrait en parler des heures de ce sujet-là. C'est un peu frustrant en une heure.
Ça passe très vite.
Oui, ça passe très, très vite. Très, très vite.
Bonjour. Du coup, moi, j'étais curieux de savoir la place de l'ego du joueur dans cet hubris, en fait. Parce que, par exemple, dans le jeu vidéo, on peut proposer d'incarner un personnage surpuissant un peu pour flatter l'ego du joueur. Donc, par exemple, ça va être Kratos qui tue tous les dieux. Voilà, c'est sympa, amuse-toi, tu te sens surpuissant. Et surtout dans le jeu de rôle, ou comment dire, les joueurs peuvent projeter... un peu trop de leur propre ego dans leur personnage, et ça va amener à incarner des personnages qui vont être over the top, un peu trop surpuissants, quelque part parce qu'ils auraient quelque chose à compenser. Et si en plus cet ego se retrouve fragile, une attaque sur leur personnage va être vécue comme une attaque personnelle, et donc je voulais en savoir un peu plus sur ça. Quoi.
Alors... Je ne sais pas qui a parlé, je n'ai pas vu dans le... Ok. vous preniez l'exemple de Kratos, c'est super intéressant, parce que Kratos, si vous prenez les premiers God of War, le personnage, il n'est pas très profond, quoi. On le regarde, c'est... voilà, je suis Kratos, je ne suis pas content, je vais tous vous tuer. Bon, voilà. C'était l'archétype, le cliché, et on était content d'aller défaire les dieux, et c'était cool, c'était flatteur sur 2-3 opus, mais les créateurs du jeu eux-mêmes, au bout d'un moment, se sont dit, bon... Peut-être qu'on a envie d'autre chose, peut-être qu'on a envie de faire évoluer le personnage, de prendre un peu à revers les attentes aussi des joueurs. C'est ce qui a amené à l'épisode de God of War où il est avec son fils Atreus, où là, on a un personnage qui est totalement différent. Ne serait-ce que quand on va voir les concept art du personnage, on n'a plus ce côté, vous savez, énervé, où on le voit, on a l'impression juste d'une boule de colère. Alors que là, on le voit dans les concept art plus sensibles, plus délicats. Tous les concepts qui ont été faits, on le voit non plus seul, mais à chaque fois systématiquement accompagné de son fils, dans des passages de sa vie qui sont complexes. En fait, on essaye de l'humaniser un petit peu plus. Et même quand il y a des affrontements, bon, effectivement, on ressent toujours la force de ce personnage, parce que bah, c'est ce qu'on attend aussi d'un God of War. Mais ils l'ont travaillé en termes de narration et de design graphique de manière à contrecarrer un petit peu voilà ce qu'on avait l'habitude de voir. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été contents en disant « Mais attendez, c'est pas Kratos, ça, c'est un fragile, c'est pas possible. » Et vous allez sur tous les forums, c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui ont été atteints dans leur virilité parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient jouer, à ce qu'ils voulaient faire. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a une licence qui a existé pendant un certain nombre d'années, qui a habitué son public à un certain type de mécanique, à un certain type d'approche aussi de la figure masculine. Ça crée des tensions. Qui est-ce qu'on écoute ? Est-ce qu'on écoute cette minorité ? Est-ce qu'on poursuit dans ses intentions, et on se rend compte que ça a des enjeux à la fois créatifs et puis pour certains studios économiques aussi. Surtout pour God of War, il y a un super documentaire que vous pouvez trouver en ligne qui revient sur l'histoire du studio Santa Monica, qui était un peu ils étaient en train de créer une nouvelle licence et en même temps ils travaillaient sur cette licence de God of War, et finalement ils ont abandonné la nouvelle licence pour se concentrer sur God of War, et on se rend compte que voilà, les réflexions en interne, elles étaient assez houleuses autour de ce personnage.
Rapidement, parce qu'on a parlé de Lego, l'exemple de God of War est vraiment très intéressant parce que c'est typiquement le genre de jeu où on va jouer un dieu qui est complètement au-dessus de tout le monde. Donc il y a vraiment cette image de on est surpuissant et on joue quelqu'un de surpuissant. Et en fait, le contre-exemple de God of War, c'est Okami, où on joue une déesse et par contre, il n'y a pas du tout de problème d'ego ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment le strict opposé. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le souci de base, c'est quand les joueurs et les joueuses mélangent en fait leur personnalité avec la personnalité d'un personnage fictif. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'histoire d'ego quand on joue à Mario. Voilà, ça fait rien. Donc c'est parce qu'il y a un lien qui se crée quelque part. Et que ce lien, en fait, c'est plutôt, il faut plutôt le questionner sur pourquoi il existe et pourquoi ça touche en fait le joueur ou la joueuse à ce moment donné.
Je vais répondre vite fait au niveau du jeu de rôle. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné avant, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est que un, c'est le contrat social au niveau de la table. Si on est en effet dans un mode de confrontation, le meneur de jeu contre les joueurs, bah on peut se sentir en effet puni par le meneur de jeu. Il m'en veut, il met des béquilles, il met des malus à mon personnage. Voilà, moi, c'est pas comme ça que je conçois mes jeux, c'est pas comme ça que je les écris. Pour moi, c'est de la coopération, c'est-à-dire que le jeu, s'il est pensé ainsi, il y aura en effet peut-être des mécaniques qui vont donner des béquilles, des malus à des personnages, mais ça fait partie du jeu, et justement, le jeu, c'est peut-être de les prendre, de les monter, parce que ça fait partie de notre personnage, c'est le parcours que va faire notre personnage, comment il va passer outre cette béquille, comment il va passer outre cette blessure pour le faire grandir en fait. C'est des propos de jeu, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre jeu. Si on veut juste faire en effet de l'affrontement, ben, chaque blessure qui va nous pénaliser parce qu'on va être moins bon dans l'affrontement, ben, ça va frustrer le joueur. Si c'est le concept du jeu et qu'on veut frustrer les joueurs, très bien. Si on veut passer un bon moment autour de la table, ben, peut-être qu'il faut réfléchir au niveau du game design à comment on veut faire ça.
Très bien. Merci. Une autre question ?
Bonjour. Je voulais connaître votre avis ou commentaire sur un paradigme de design qu'on pourrait décrire comme ça. Un jeu sur lequel il n'y a pas de limite dure ou très peu, ou même très peu de limites molles dans l'horreur dans laquelle on peut aller, mais qui, d'un point de vue d'optimisation de stratégie, récompense en fait de bien se comporter. Le jeu auquel je pense actuellement, là, c'est Rimworld, où on peut aller très très loin dans l'horreur qu'on peut faire subir aux différents personnages du jeu, mais où il est optimisé en fait de bien se comporter.
Tu veux dire un jeu où il y aurait une dissonance entre ce qu'on va inviter les joueurs à faire et comment je pourrais le synthétiser ? Je suis en train de me perdre dans ma propre phrase. Alors, j'ai pas joué au jeu en question. Et les jeux d'horreur, j'avoue, j'y joue très peu, pas parce que je les apprécie pas, mais moi, c'est médical, en fait. Depuis que je suis petite, je suis somnambule, je fais des rêves lucides à répétition, je suis suivie par un médecin, et si je joue à des jeux d'horreur, je peux me mettre en danger. Donc, j'évite de jouer à ces jeux. Pourtant, j'avoue que j'aimerais beaucoup... J'ai essayé une fois avec Outlast, et j'ai regretté, très clairement. Donc, je suis pas le mieux pour parler des jeux d'horreur. Alors,
c'est intéressant, parce que je pense que la question aussi, c'est sur ce qu'on laisse faire aux joueurs, ouais. Et du coup, quel est le propos du jeu au final. Et sur cette question-là, alors c'est vrai que c'est sans doute encore plus vrai dans le jeu de rôle, parce que dans le jeu de rôle, les joueurs sont vraiment très libres de faire n'importe quoi, alors que dans le jeu vidéo... Il y a une vraie question économique, même de laisser aux joueurs faire des choses, ça demande du travail de leur permettre de les faire. Oui. Pourquoi on les laisse faire?
La liberté est toujours cadrée dans un jeu. Ouais.
Voilà, pourquoi on les laisse faire si en vrai le propos du jeu est autre?
Moi je vais parler de game design hein, sur un jeu que j'adore au niveau d'un point de vue game design et d'un point de vue jeu aussi, qui s'appelle Urban Shadows. C'est un jeu de rôle où on va jouer en fait dans une ville, on va choisir une ville, peu importe celle qu'on souhaite, et on va jouer, un joueur va jouer le loup-garou. Qui dirige un gang de loups-garous, qui est une sorte de membre de gang, qui peut être un panthère-garou ou un requin-garou, hein, on fait ce qu'on veut. Il y en a un autre qui va jouer peut-être le vampire, qui est quelqu'un qui manipule les gens, qui joue sur l'addiction. Donc ce n'est pas des gens très bien. Hein. On va jouer le fantôme, on va jouer le justicier. Et il y a une mécanique de corruption qui fait que, en fait, quand on va faire des actes un peu répréhensibles, qui ne sont pas forcément dans le cadre du bien, ben on va gagner des points de corruption. Ces points de corruption, ils vont nous faire monter des échelles qui vont nous débloquer des super pouvoirs encore plus géniaux. Sauf que tous ces pouvoirs géniaux vont nous faire consommer encore plus de points de corruption. Et en fait, si on arrive à trop de points de corruption, eh ben on perd notre personnage et on a le droit d'en refaire un autre. Donc il faut jouer avec cette limite, c'est-à-dire que le jeu est fait pour ça. C'est vraiment se dire jusqu'où on est prêt à aller, mais si on va trop loin, eh ben on va perdre le contrôle. Et là, c'est dans les règles, le personnage il disparaît ou alors il devient un antagoniste des personnages joueurs.
Voilà. Il y avait ça aussi chez White Wolf avec l'humanité chez les vampires.
C'est vrai que les personnages en fait qu'on peut retrouver dans des jeux comme ça, je sais pas du tout où je vais avec ça. Attends, je reprends. Je sais plus ce que je disais. C'était quoi la question ?
Ah bah. Sur le fait de laisser faire aux joueurs beaucoup de choses et dans un jeu ça coûte par rapport au propos du jeu.
Oui, voilà, j'ai retrouvé le fil. Pardon. J'allais dire que du coup on peut se retrouver avec des personnages en fait dans des jeux comme des roguelites où c'est complètement encouragé de prendre en fait des libertés, et en fait toutes les libertés qu'on trouve dans les jeux, Marine l'a dit, c'est cadré en fait. C'est si un joueur a la possibilité de faire ce qu'il veut et qu'on le récompense pour ça, bah, c'est parce qu'on l'a voulu et que c'était du coup dans le game design. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que l'on doit empêcher?
Non, dans RimWorld, c'est probablement un propos en fait des concepteurs du jeu et conceptrices du jeu de laisser faire et en même temps de récompenser un type de comportement. C'est probablement aussi pour laisser aux joueurs intégrer dans le jeu cette capacité à explorer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire et ce que le jeu nous demande de faire. Une question ici maintenant?
Oui, en fait, ça, c'est en réaction par rapport à la notion de contraste que vous avez amené tout à l'heure. Je dois avouer que le nom de la conférence m'a immédiatement fait penser à un jeu de rôle qui s'appelle Masque, que vous connaissez peut-être, où on incarne des super-héros, on va combattre des super-méchants. Et en fait, les personnages comme les adversaires sont tellement tous over the top que ça vient amener l'effet extrêmement inverse, qui est que la mort, c'est une mauvaise grippe, en fait. Il n'y a plus de système de points de vie, de blessures, de tout ce qu'on veut. Et du coup, alors qu'on incarne des personnages tous over the top, l'aspect physique, l'aspect combat n'est même plus l'aspect central du jeu. C'est un jeu extrêmement social, en fait, et narrativiste. Et du coup, est-ce que, justement, le fait d'incarner des personnages over the top, c'est pas justement tuer cette notion-là? Enfin, ça peut être une des façons d'enlever cette notion-là du jeu, en fait.
J'essaie de réfléchir j'ai un très bon exemple. Je travaille actuellement sur un jeu qui s'appelle Astral Ascent, c'est un roguelite où les personnages principaux sont enfermés dans une prison et ils essayent de s'en sortir, enfin de s'en échapper. Sauf que pour échapper à cette prison, ils doivent affronter des boss qui chacun représente un signe du zodiaque. Et les créateurs du jeu nous ont demandé d'écrire tous les personnages en suivant un seul mot, épique. Du coup, on se retrouve à avoir un cast de personnages qui sont tous et toutes très extrêmes. Et on en a 12, donc c'est beaucoup. Et l'idée, c'est qu'en plus, on a 4 personnages joueurs, donc il faut les faire tous interagir les uns avec les autres. Et l'idée, c'est comment en fait, on fait pour rendre tous ces personnages complètement over the top, soit attachants, soit différents, soit ne pas juste en faire des Sasuke-like, je suis dark, ou au contraire des Naruto qui hurlent dans tous les sens. Et ben, la réponse, c'est qu'on a des deux. C'est-à-dire qu'on a des personnages complètement over the top qui sont insupportables. L'un des héros principaux s'appelle Kiran, c'est Naruto, il hurle, il fait « Waouh, je vais tous vous casser la gueule !» et tout. Il n'a aucune profondeur. Et à côté de ça, on a des personnages beaucoup plus complexes qui, du coup, sont over the top, mais dans d'autres domaines. On a le personnage du Verseau, par exemple, qui, c'est un enfant qui souffre. Et comme il souffre énormément, il ne parle pas beaucoup, mais il parle jamais, en fait. Il dit 3 mots dans toutes ses phrases. Et du coup, c'est complètement excessif, parce que ça, c'est tout le temps, on le voit, il n'y a pas du tout d'évolution de personnage. Mais quand il est mis en fait en opposition à des personnages qui, du coup, comme les héros principaux, semblent un peu creux, en fait, on comprend toute la complexité des autres personnages. Et c'est comme ça qu'on se débrouille, en fait. C'est en les faisant dialoguer et interagir entre eux. Mais on peut faire ça parce que c'est du jeu vidéo et qu'on n'est pas en train d'incarner tous les personnages qui sont over the top, alors que je pense que dans le jeu de rôle, ça doit être assez différent.
C'est très différent. Pour parler de Mask, que je connais, c'est en effet un jeu de rôle qui s'inspire énormément des fictions, en comic book, beaucoup de super-héros adolescents, et en fait qui joue sur le changement justement de l'adolescence, sur les émotions de l'adolescence, et en fait nos jauges vont être des jauges d'émotions, et les jauges vont switcher pendant les combats, et au final... le combat n'est pas là pour savoir est-ce que je vais réussir à enlever les 10 points de vie du méchant. Non, c'est qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier, qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de vivre pour justement vaincre le héros, qu'est-ce que je vais apporter comme changement, est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour tel ami ou pas. Et ça, c'est parce qu'en fait, on a de plus en plus de fictions qui aussi proposent ces genres de réflexions et qu'on n'est plus uniquement dans de l'affrontement. On le voit dans le jeu vidéo, avec le jeu de vidéo indépendant, on le voit de plus en plus dans le jeu de rôle aussi, avec le jeu de rôle indépendant, qui propose justement des propos différents. C'est un peu ça, hein, ça revient souvent, mais voilà, si on a un propos et on veut proposer ce genre d'histoire, ben, on ne va pas proposer des combats parce que ça n'a pas de sens, tout simplement.
Merci, une dernière question très rapidement.
Ouais. Oui, bonjour, merci pour cette discussion très intéressante. Je voulais vous demander, vous êtes souvent parti sur une vision du over the top qui était assez négative, vous l'avez souvent relié au cliché et c'est quelque chose auquel vous êtes opposé. Est-ce que vous avez des exemples de personnages qui sont très over the top, que ce soit des héros ou des antagonistes que vous avez bien aimés, qui vous ont marqué et du coup comment ça a marché, comment ça a désamorcé ces côtés que vous n'aimez pas chez ces personnages?
Alors moi je pense à un jeu comme Fury, des Game Bakers, je ne sais pas si vous y avez joué. J'ai beaucoup apprécié ce jeu, alors c'est du boss fight, hein. On incarne un personnage qui est emprisonné pour des raisons obscures, en tout cas qu'on apprend à découvrir, et qui doit affronter ses 12 geôliers. Donc il y a, on va dire, c'est un peu comme le jeu de poupée russe, il y a une prison dans la prison dans la prison, et chaque prison est gardée par un antagoniste, donc on doit l'affronter, mais ils ont tous des personnalités qui sont assez incroyables en fait. Et là, pour le coup, pour en revenir au design graphique de personnages, ils ont travaillé avec un mangaka très connu, dont j'oublie le nom, c'est terrible, il a travaillé sur Afro Samurai. Ça va me revenir après. Et en fait, c'est le mangaka qui a proposé, en fait, à partir des petits briefs textuels du studio, des représentations. Et en fait, il était tellement riche de détails dans ses designs graphiques que c'est ça, en fait, qui a aidé les game designers à concevoir leur système de jeu. C'est-à-dire qu'ils partaient pas avec des attaques prédéfinies ou des envies autour d'un personnage. Ils avaient des idées un peu vastes. Donc c'était quelques mots clés. Et après, c'était à l'artiste de proposer des choses. Et ils ont tissé vraiment le système de jeu autour de ça. Ce qui fait qu'on a des personnages qui prennent aussi à revers les attentes. C'est-à-dire que, par exemple, alors je ne me souviens plus des noms de tous les personnages, mais on a par exemple des boss qui ont l'air assez lourds, par exemple, avec une, une sacrée corpulence. On a l'impression que voilà, c'est un peu le big boss qu'il va falloir vaincre. Et en fait, on se rend compte que le personnage est super léger, hyper rapide. C'est-à-dire qu'en gros, il a des capacités qui sont à l'opposé de son design graphique. Et donc, voilà, que ce soit dans la personnalité, dans les capacités d'action ou autre, on va justement essayer de s'amuser des attentes des joueurs. Voilà, un joueur va se dire, OK, lui, il a l'air de fonctionner comme ci ou comme ça. Et souvent, c'est complètement l'inverse. Et ça, je trouve que c'est super bien amené. Et là, pour le coup, c'est un exemple de, entre guillemets, du positif, voilà, de pouvoir s'amuser de ça. Quand vous parliez tout à l'heure voilà, de personnages qui en faisaient tellement trop, à la fin, on sait que c'est comique, ça tourne en dérision, bah, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir s'amuser aussi des codes ou de créer volontairement de la dissonance pour pouvoir... voilà, surprendre. Oh là, je vois quelqu'un qui arrive, c'est stop.
Ça va être
stop, terminé.
Je vais juste rapidement, un dernier exemple. Moi, j'ai le personnage de Madeline qui me vient de Céleste, parce que c'est un personnage qui a une personnalité complètement broken et complètement conflictuelle. Et en fait, ce qui est très bien fait dans le jeu, c'est qu'ils prennent appui justement sur cette personnalité qui est complètement over the top. Et en fait, ils en font le némésis de l'histoire. Et ça fonctionne super bien. Et puis il y a d'autres jeux comme The Stanley Parable où le narrateur il est absolument insupportable, mais ça fonctionne très bien aussi parce que c'est de la comédie. Et il y en a d'autres, ils ont fait des jeux entiers sur le principe du over the top, The Last of Us 2, voilà, et ça fonctionne aussi, quoi.
J'ai juste envie de dire que les clichés, moi j'adore les clichés, un de mes sites préférés c'est TV Tropes. Parce que justement ça me permet de me nourrir de clichés, mais après le cliché il faut le comprendre, il faut savoir d'où il vient, et quand on le respecte son origine et qu'on, voilà, je parlais du jeu de vieille dame tout à l'heure, bah, si on va jusqu'au bout et qu'on ne fait pas juste que se moquer du cliché mais qu'on l'utilise pour apporter une idée et faciliter aussi l'explication d'un jeu, hein. Voilà, on joue des vieilles dames, bah voilà, on a compris ce qu'on jouait, des vieilles dames qui enquêtent, bah, c'est un cliché, mais derrière il faut le respecter, il faut savoir d'où il vient et l'approfondir, en fait.
Et là ça peut marcher. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.
Merci.